Semaine Sainte 2022.
Semaine Sainte 2022 avec les Fraternités Apostoliques de Jérusalem.
Et tout de suite, nous vous proposons l'enseignement de ce samedi saint. Voilà, enseignement donné ce matin à la maison Saint-Paul, la maison diocésaine de Tarbes.
Depuis l'âge de 4 ans, elle désirait ardemment faire aimer le divin cœur de Jésus auquel elle s'était consacrée. La veille au soir, dans son petit ermitage au fond du jardin, elle chantait « Jésus, me voici devant toi », tout simplement dans le silence. « Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence ». Et d'enchaîner une des strophes, « Quand viendra-t-il ton Dieu ? Où j'apercevrai ton visage ? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. » Un journaliste interroge la maman, « Comment se fait-il que son ange gardien l'ait lâché, elle qui l'aimait tant ?» Sa maman répond, « Le Père n'a pas envoyé 12 légions d'anges pour protéger son propre fils. » Un autre pose la question à son frère, séminariste, qui est prêtre aujourd'hui. « Comment pourras-tu, pendant le procès, regarder en face ce monstre de meurtrier ?» Il répond, « Ce n'est pas un monstre. C'est un enfant de Dieu qu'il peut redevenir. Je suis sûr que dès son arrivée au ciel, ma petite sœur a dû dire à Jésus, « Celui-là, je le veux au ciel. » Quelques mois plus tard, en chapelle de la rue du Bac, un religieux africain vient communier. Le prêtre tient la sainte hostie entre ses doigts serrés, tout à coup, plus d'hostie, disparue. On cherche, elle n'est nulle part. Est-ce qu'il y aurait dans l'église quelque sainte Catherine de Sienne qui, lorsque le dominicain qui lui disait la messe voulait lui donner l'hostie, voyait que l'hostie s'échappait et s'en allait directement dans le cœur de la sainte ? Non, on ne trouve rien. Le frère africain communie à une autre hostie. Et puis, il va faire son action de grâce, il prend son Nouveau Testament, qu'il tire de la petite poche, là, sous son pull. Il l'ouvre au hasard. Qu'est-ce qu'il voit ? La petite hostie sainte scotchée sur le visage de la petite Jeanne-Marie dont il avait glissé la photo dans son évangile. Il la montre, il va la montrer aux célébrants, à la sacristie. 3 autres prêtres sont là qui en deviennent les témoins. Impossible de détacher l'hostie. Elle est littéralement accrochée au visage de la petite fille. Finalement, on y arrive et on laisse quelques petits fragments qui restent collés sur la photo. Jésus descend jusqu'au tréfonds de cet enfer que subissent une multitude d'enfants kidnappés, torturés, violés, tués dans l'atroce commerce sexuel international. Il est lui-même utilisé, manipulé, saccagé par des réseaux de satanistes. Le miracle de Jésus Eucharistie, s'unissant avec Jeanne-Marie, nous crie « Pas un enfer où je ne puisse descendre ». J'y rejoins chacune de ces petites innocentes victimes du pire des esclavages de tous les temps. Donc nous sommes toujours le samedi saint. Dieu descend dans nos enfers. Il ne faut pas aller trop vite. Ils sont tellement vastes, tellement épuisants. Mais c'est ainsi que Dieu achève son œuvre. Et c'est ce double versant du samedi saint qu'il nous faut contempler. D'une part, la descente aux enfers, et c'est ainsi que Dieu entre dans son repos. Le samedi saint, c'est le sabbat, c'est le 7e jour de la création. C'est le jour où Dieu est entré dans son repos quand il a achevé l'œuvre de création. Et c'est ce qu'il vient accomplir, c'est cet achèvement, cet accomplissement qu'il vient accomplir en Jésus tout au long de son ministère. Jésus monte à Jérusalem, mais pour monter à Jérusalem, il faut qu'il descende jusqu'au fond de notre terre. Nous lisons, l'évangile de Luc nous présente tout le ministère comme une année de grâce, inaugurée par sa prédication à la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction » pour que j'aille porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les affligés, libérer les prisonniers, annoncer une année de grâce pour le Seigneur. Cette année consistera à monter de Galilée à Jérusalem. Mais pour monter à Jérusalem, il descend. Il descend jusque dans la vallée du Jourdain, jusqu'au point le plus bas de notre terre, jusqu'à ce Jéricho, qui est à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est là qu'il va encore rencontrer ce pauvre petit pêcheur de Zachée, tellement petit et minable, hein, grimpé sur un arbre, qui doit encore se pencher sur Dieu qui est plus bas, au pied de l'arbre. Dieu est en bas. Et c'est de Jéricho qu'il va alors monter à Jérusalem pour faire jaillir la lumière. Sur la croix, nous entendons ce double aspect de la mort de Jésus. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, nous entendons ce cri terrible. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus descend, pourrait-on dire, au fond de la désespérance. Mais il vient l'habiter. Et dans Saint Luc, le cri nous est rapporté par un autre verset de notre psaume. « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Il descend au fond pour nous attirer avec lui, jusque dans le sein du Père, jusqu'au sommet de ce Golgotha, de cette montagne où il rejoint le Père. L'humanité, tout au long de son histoire, et nous le voyons encore aujourd'hui malheureusement, est toujours tentée de se remettre au rang des bêtes. Nous avons du mal à nous laisser créer chaque jour pour devenir vraiment des hommes et des femmes debout sous le regard de Dieu. Et comme la petite Bernadette l'a mimé dans le parcours des apparitions à Lourdes, qui est un parcours de carême, au cœur de la quinzaine des apparitions, elle est invitée à aller boire et se laver. Mais pour cela, il faut qu'elle marche à quatre pattes pour aller jusqu'au fond de la grotte. Elle avance dans la boue. Et c'est là qu'elle va essayer de boire. J'ai essayé par trois fois. La quatrième fois, je pue boire un peu de cette eau boueuse et sale, pleine du caca, des cochons qui viennent se réfugier dans cet endroit quand il fait mauvais, de tout ce que les détritus, que le gave et le canal ont laissé au fil de leur course. C'est de là. Que c'est là qu'elle va boire. C'est là qu'à la demande de Marie, elle va manger de l'herbe. En entendant ces mots pénitence, 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 pour les pécheurs, est-ce que ça ne vous ferait rien de manger un peu de cette herbe qui est là? Voulez-vous bien baiser la terre? Pour les pécheurs. Elle descend à quatre pattes au rang des bêtes. Le pécheur, c'est un homme, une femme, un être humain qui a oublié le lien qui le tient par en haut et qui lui permet de tenir debout. Si nous coupons ce lien, nous tombons à quatre pattes, comme les bêtes, réduits à boire de la boue et à manger de l'herbe. Ils ont échangé ma gloire, à moi, le Dieu vivant, contre celle du bœuf, du mangeur d'herbe. Ils ont idolâtré le veau d'or. Mais sous la boue, il n'y a pas la boue, il y a la source. Sous le péché, il n'y a pas le péché, mais le pardon et la miséricorde. Voilà notre recherche du samedi saint. Il ne s'agit pas de sauter trop vite au matin de Pâques, mais de nous laisser en effet nous enfoncer dans la boue de cette humanité, mais pour y trouver l'espérance du pardon et de la vie. Et c'est ainsi que Dieu peut passer véritablement dans son repos, qu'il peut comprendre, qu'il peut réaliser que ça a réussi. Que son œuvre de création, qui le sixième jour a permis de faire sortir l'homme et la femme du néant, du rang des animaux, eh bien, lui permet d'achever en conduisant cet homme et cette femme dans la célébration du sabbat, dans la célébration de la rencontre avec Dieu, passer du sixième au septième jour, passer dans le repos de Dieu quand enfin il peut dire « tout est accompli ». Tout est consommé. Donc, descente aux enfers et entrer dans le repos de Dieu. En avançant sur le chemin de la confiance, jusqu'au fond des pires horreurs, voyez. Il est trop facile de dire ces horreurs, c'est pas moi, c'est pas possible, c'est un monstre. Hitler est un monstre. On se souvient d'un film qu'on avait fait sur Hitler où on le montrait souriant, gentil, en train de caresser la tête des enfants qu'on lui présentait. On voulait interdire ce film en disant « on n'a pas le droit de présenter ça ». Ce sont des images vraies. Le monstre, il sommeille au fond du cœur de chacun de nous. Un petit Judas, un petit traître, un petit renégat. Je cite très souvent cette phrase rapportée par Père Braun, prédicateur dominicain, qui racontait la découverte des camps de concentration à la fin de la guerre par les soldats britanniques et américains qui disaient « Mais comment des hommes normaux ont-ils pu commettre de pareilles horreurs ?» Et l'aumônier leur disait tant que vous n'aurez pas compris que nous sommes, vous et moi, capables de pareilles horreurs, vous n'aurez rien compris à l'Évangile. Nous nous mettons à part. Nous ne sommes pas à part. Nous sommes dans cette pauvre humanité qui a besoin d'être visitée par la croix et enfoncée dans la boue du samedi saint pour que sous cette boue, plus profonde, pas à côté, pas ailleurs, elle soit renouvelée par la source qui jaillit au matin de Pâques, mais qui coule déjà de la croix. Il a fallu quelqu'un pour que la mission de Jésus aille du commencement à la fin. Il a fallu quelqu'un pour qu'il inaugure sa mission, pour qu'on puisse vivre et se rappeler le commencement des signes qui vont culminer dans le dernier signe de la croix. Ce premier signe, ce commencement des signes, comme le dit l'évangéliste Jean, c'est les noces de Cana. Quand est déjà célébrée l'alliance entre Dieu et son peuple avec le vin nouveau que Dieu lui-même donne en abondance. Ce vin nouveau, nous n'en comprenons la réalité que quand le sang jaillit des plaies de Jésus sur la croix. Nous lui offrons du vinaigre, il donne son sang. Et au moment où tout sera accompli, il y avait quelqu'un qui était au commencement, il y a quelqu'un qui se tient encore là, à l'accomplissement. C'est la petite maman, Marie. Elle est la mère du samedi saint. Le samedi est le jour de Marie. La femme, elle ne dit rien, elle est là. Elle offre à Dieu, a-t-on pu chanter, le silence où la parole habite. Elle accueille le mystère de la foi. Elle n'est qu'une petite créature. Elle n'en sait pas plus que les autres. Mais elle accueille, elle fait confiance. Elle a reçu la première béatitude de l'Évangile. Elle est celle qui a cru, la croyante. Et c'est pour cela que le disciple est invité à la prendre chez lui. Il prend chez lui la foi de Marie. Elle n'ajoute rien au don de Dieu, mais elle nous permet de l'accueillir. Si elle n'est pas là, tout se perd. Quand nous disons... Avant la communion, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. S'il n'y a que nous à regarder, il vaut mieux qu'il ne regarde pas de trop près. Mais il y a dans l'Église la petite Marie. Qui croit, qui ne laisse perdre aucune goutte de sang qui coule de la croix, qui accueille totalement le mystère de la rédemption. Et un grand théologien a pu dire, voyant Marie au pied de la croix, Jésus sait qu'il n'est pas mort pour rien. Bienheureuse la croyante, bienheureux les croyants, dira Jésus à Thomas. C'est la béatitude de Marie qui nous est offerte, à condition que notre cœur soit ouvert. À condition que ce samedi saint, nous aussi, abrités par elle, nous ne laissions perdre rien du mystère de la rédemption. Que nous soyons de ceux qui symbolisent, qui rassemblent. Vous connaissez la petite phrase qu'on dit dans l'évangile de l'enfance, après la nativité et après les retrouvailles de Jésus avec ses parents au temple, Marie, sa mère, gardait toutes ces choses dans son cœur. Le mot qui est employé là, c'est le mot symboliser. Symboliser, cela veut dire rassembler, mettre ensemble. C'est le contraire de diaboliser. Le diable divise, Marie rassemble. Elle est celle qui symbolise les événements pour qu'ils puissent prendre sens. Elle prend les événements qui lui arrivent et elle les relie aux événements de l'histoire sainte. Et elle chante le Magnificat. Le Magnificat, c'est le chant de Marie. Le Magnificat, c'est le chant de l'histoire sainte. Ainsi, elle nous invite et elle nous aide à ne pas rester à la surface, ni à la dispersion des apparences. Elle nous aide à voir la réalité, non pas une grotte sale et obscure, mais une figure lumineuse qui sourit. Elle nous aide à descendre au cœur, là où l'amour se donne. Elle est la croyante. Elle est la patiente. Trop souvent, quand quelque chose de désagréable nous arrive, nous avons l'impression que, qu'il ne nous arrive que ça, que tout est noir, que tout va mal. C'est toujours pareil, c'est trop injuste. C'est ce que le père Bustillo, dans ce livre sur les prêtres, que le pape François vient de faire distribuer à tous les prêtres qui étaient à la messe chrismale le jeudi dernier, il dit le syndrome de Calimero. Hein. C'est injuste, et voilà, comme les petits-enfants. Et nous sommes très souvent comme ça. Dans mon ministère d'exorciste, je vois si souvent des gens qui ont l'impression qu'ils sont les réceptacles de tous les malheurs du monde. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Et il faut se souvenir que le mal est une plante parasite, qui n'a de pouvoir que si on le lui donne. Le samedi saint nous apprend à transfigurer la croix. La croix, c'est ce qu'il y a de plus horrible. On tue la source de la vie. Et voilà que dans la foi de Marie, eh bien, ce qui est un meurtre devient une naissance. Voyez, le mal est une plante parasite. Il ne faut pas faire oublier la plante qu'il parasite et qui est essentielle. Le lierre ne doit pas faire oublier l'arbre auquel il s'accroche. La carie a besoin de la dent. La dent n'a pas besoin de la carie. Donc, ne pas oublier de rendre grâce. Et c'est là la grande leçon du samedi saint. Apprendre devant l'horreur, la difficulté, la souffrance, à rendre grâce. Laisser monter la grâce au creux de la souffrance. Quand nous avons perdu quelqu'un, nous pouvons nous désoler, évidemment, et il est normal de souffrir de la séparation, de la perte. En même temps, béni sois-tu, Seigneur, de nous l'avoir donné. Si nous ne l'avions jamais connu, nous ne souffririons pas de l'avoir perdu. Est-ce que tu préférerais ne l'avoir jamais connu ? Béni sois-tu, Seigneur, de nous l'avoir donné. Pour le dire sous forme de boutade, je cite toujours le mot de quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissent bien, Michel Lowers, qui était ophtalmo, et qui voyant arriver une des religieuses qui était avec nous, et qui avait des problèmes aux yeux, et avait peur de perdre la vue. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je perds la vue à 50 ans ? Eh bien, vous rendrez grâce au Seigneur d'avoir vu pendant 50 ans. évidemment, c'est une façon un peu rapide, mais on peut retenir ceci sous forme de boutade, comme une invitation qui nous est toujours faite. À ne pas oublier que si nous perdons quelque chose, c'est que d'abord nous l'avons eu, et que la grâce de l'avoir eu reste présente en nos cœurs. Le don dont nous prenons conscience nous fait entrer dans le présent de Dieu à accueillir. Marie n'oublie pas qu'elle a porté Jésus pendant 9 mois. Marie n'oublie pas qu'elle l'a accompagné sur les chemins de la crèche à la croix en passant par Cana. Elle est donc la croyante, elle est la patiente, elle est la mère en douleur d'enfantement. Je me rappelle l'émotion ressentie devant le tableau qui, à la Trinité des Monts, à Rome, représente une descente de croix. Tableau très agité, on voit des échelles dans tous les sens, des hommes qui montent, qui descendent, enfin, c'est tout un mouvement terrible, et des tas de personnages qui s'agitent. Et puis, au pied de la croix, la femme, la mère. Mais au lieu de la représenter, quelquefois trop traditionnellement, en train de se pâmer de souffrance devant la croix. Claudel nous rappelle, ce n'est pas le moment de se pâmer, elle ne doit rien laisser perdre du mystère de la rédemption, elle est là, elle est debout. Et là, dans ce tableau de la Trinité, elle n'est pas debout, elle est couchée. Elle est couchée sur le dos, comme tordue de souffrance. Et la religieuse qui commentait le tableau disait, c'est la mère dans les douleurs de l'enfantement. Elle qui a enfanté Jésus dans la joie de la nuit de Bethléem, se tord de douleur au long des âges. Elle est la femme de l'Apocalypse qui se tord dans les douleurs de l'enfantement. Mais ces douleurs ne doivent pas vous faire oublier que c'est précisément l'enfantement. Dans ce petit passage de Saint Jean où nous voyons présenter Marie au pied de la croix, il est tout simplement dit... au pied de la croix de Jésus se tenait sa mère et 3 autres femmes. voyant la mère. Jésus dit à la mère. Sa maternité particulière pour Jésus devient une maternité universelle. Femme, voilà ton fils. Elle reçoit, elle qui n'a toujours pas de nom dans l'évangile, elle est simplement de Jean, elle est simplement la mère. Si nous n'avions que Jean, nous ne saurions pas comment elle s'appelle. Et elle reçoit comme enfant le disciple anonyme, le disciple que Jésus aimait. Nous y sommes là, chacun. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Elle nous enfante. Nous sommes les enfants de ta souffrance. La mort de Jésus, grâce à la présence de Marie au pied de la croix, devient un enfantement. L'heure de Jésus, c'est l'heure de la femme. Jésus l'avait dit dans les discours après son dernier repas, les confidences qu'il fait à ses disciples. La femme, sur le point d'accoucher, est dans les douleurs. Mais quand est venue l'heure de mettre l'enfant au monde, elle est toute à la joie et elle oublie les douleurs. Elle est toute à la joie de donner la vie à un enfant, chapitre 16 de Saint Jean. Ainsi, elle nous fait croire toujours, elle nous offre de croire à la vie qui naît. Et c'est ce regard qu'elle veut nous apprendre à avoir en ce samedi saint. Ne pas rester prisonnier de la mort, ne pas rester prisonnier du mal, ne pas rester prisonnier de ce qui disparaît. Le Dieu reste le créateur et le recréateur, grâce à Marie qui l'accueille et qui lui permet d'accomplir son œuvre. Sinon, bien sûr, il donne la vie, il donne son corps, il donne son sang. Mais où sommes-nous? Est-ce que nous l'accueillons? Il est important de prendre Marie chez nous. Si nous ne la prenons pas, notre maison n'est plus une maison-église, n'est plus une maison qui offre au don de Dieu la foi qui lui permet d'être accueillie. Si il arrivait que nous sombrions après la mort dans le néant et que, par je ne sais quelle logique impossible, on pouvait encore s'en apercevoir, le curé d'Ars nous dit « Je ne regretterai pas d'avoir cru à l'amour. Seul l'amour est force de création. » Et c'est de cela que ça c'est du père Kolb, c'est de cela que Marie est témoin. En ce samedi saint, essayons de nous ouvrir à la force de l'amour, à la force de la création. Voilà donc pour ce petit passage sur Marie. Elle est la mère du samedi saint, elle est la croyante, elle est la patiente, elle est la mère en douleur d'enfantement. Et dans ce dernier paragraphe, je voudrais ainsi nous orienter, grâce au don de Dieu, jusque dans la boue, jusque dans la mort, jusque dans nos enfers. Grâce à la foi de Marie qui l'accueille, nous passons alors vers le huitième jour. Le sabbat, le samedi, c'est le septième jour, c'est l'achèvement de la création. Mais elle nous ouvre, et cet achèvement nous ouvre vers un nouveau commencement. Les pères de l'Église nous disent, au ciel nous irons de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. Nous entrons dans le huitième jour, qui est le jour de l'éternité, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, le dimanche, le jour de la création nouvelle, le jour de la vie avec Dieu. C'est le premier jour de la semaine, mais chaque dimanche nous fait entrer dans l'éternité de Dieu. Trois invitations pour entrer dans ce huitième jour, et qui peuvent être travaillés, accueillis, réveillés en nous en ce samedi saint. Trois invitations qui rejoignent les trois dimensions du temps, le passé, le présent, l'avenir, dans l'ordre, je mettrai le passé, l'avenir et le présent. La mémoire, la promesse, la charité. D'abord, retrouver, réactiver la mémoire. Nous avons assisté, nous sommes le 16 avril, le lendemain du 15. Le 15 avril, c'est l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. C'était le lundi saint, il y a 3 ans. Et nous avons vu la nuit de nos capitales ainsi illuminée par cette clarté de l'incendie. Une sorte de gigantesque veillée pascale. Peut-être célébrer mystérieusement dans ce monde qui ne vit plus que la nuit, le jour on s'ennuie et la nuit on vit. La nuit on se dépense, on s'éclate. Quelle leçon retenir? Est-ce qu'il s'agit de retrouver un monument du passé? Je me souviens de quand j'étais à la Trinité des Monts à Rome, dans l'église se trouve au sommet d'un immense escalier, la scalinata, et donc les touristes en nombre infini grimpent cet escalier et ils voient l'église en face d'eux, qui est en haut de l'escalier. Puis une fois qu'ils sont arrivés, ils se retournent. Et ils voient les toits de Rome, jusqu'au Vatican, jusqu'au Janicule, jusque vers l'ouest, et dans la clarté du soleil couchant encore. Attends, encore un jeune, il dit, c'est trop beau. Est-ce que c'est simplement se rendre grâce? C'est déjà beau pour ce qui a été bâti dans le passé. Ou est-ce qu'il s'agirait de goûter à une source qui veut rejaillir? C'est tout l'enjeu d'une reconstruction. Nous sommes les enfants de l'histoire sainte, mais est-ce qu'elle est pour nous simplement une belle leçon, un beau souvenir, belles histoires? Ou est-ce qu'elle nous ouvre au courage de la foi? Est-ce qu'elle nous dit, c'est toi l'ouvrier maintenant? C'est toi le constructeur de Notre-Dame? C'est toi qui porte en tes mains l'œuvre de Dieu? Une seule condition, et que Marie nous apprend, puisque l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui agit, nous avons quelque chose à faire, c'est d'y croire, c'est de l'accueillir, c'est de lui dire oui, c'est de lui donner la permission d'agir. Est-ce que tu veux être la mère du Fils de Dieu? Je suis la petite servante du Seigneur. Mais c'est un courage extraordinaire. Je me souviens du témoignage d'une jeune fille qui était comme de l'âge des jeunes qui sont là, il y a quelques années, quand nous étions en paroisse, enfin quand j'étais en paroisse, et elle nous racontait que dans son lycée à Tarbes, on lui avait fait un cours d'histoire, et la leçon se trouvait être autour de la Bible, et la professeure a demandé s'il y avait des croyants dans la classe. Elle faisait partie des scouts d'Europe, elle allait à l'aumônerie, elle faisait beaucoup de choses. Elle était devant, elle se retourne discrètement pour voir si quelqu'un levait le bras. Personne. Elle ne l'a pas levé non plus. Il n'y avait pas de croyants dans la classe. Voilà toute la question. Voyez, retrouver la mémoire. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vivre? Et donc, qu'est-ce qui m'est confié aujourd'hui? Quand je me souviens de mon histoire, de mes parents, de mes maîtres, de ceux qui m'ont nourri, je ne dois pas rester comme ça, comme un petit canard gavé, mais est-ce que je suis à mon tour capable de prendre ma place? Voyez? Est-ce que dans cette gigantesque veillée pascale que nous a offert l'incendie de Notre-Dame, je suis capable de laisser jaillir l'espérance d'une vie nouvelle? Et c'est donc le deuxième volet. Nous ouvrir sans cesse à nouveau à la promesse. Ce qui nous menace le plus, c'est dans nos sociétés comblées globalement, et apparemment, c'est de penser que c'est fini. C'est de penser qu'il n'y aura pas de matin de Pâques. C'est donc de nous éclater dans la nuit. Devant tout ce qui nous est... Et ça, je crois que c'est vraiment une image de l'enfer. Quelquefois, pour essayer de faire comprendre, je dis l'enfer, vous savez, la clé est à l'intérieur. Ça, on ne veut pas sortir, on s'enferme et on ne veut pas sortir. Un immense goûter nous est offert, c'est beau, il y a tout ce qu'on aime. Et le gamin est là dans un coin, il dit « je ne veux pas ». Voilà l'enfer. Ce que Bernanos dénonçait, l'aquabonisme, la bof génération. Moi. Daniel Ange cite la lettre d'un jeune Martin. Cher Daniel Ange, je loue le Seigneur de toute mon âme que tu aies parlé de la peur des jeunes. Si vous saviez ce que c'est que de crever de trouille, la peur de soi, la peur des autres, de vous, adultes, grandes personnes, la frousse de l'avenir, après. Nous avons soif et personne ne nous sert à boire. Nous avons froid et personne ne couvre nos épaules. Nous sommes en exil, condamnés à nous durcir ou à mourir. Nous sommes les martyrs de votre indifférence. Et comme pour se donner bonne conscience, les bourreaux de notre enfance nous offrent le plaisir matériel, du luxe et des écoles toujours plus étudiées, hygiénarisées, sectorisées. Prisonniers de nos glues qui sont sensibilité énorme, soif insatiable et peur viscérale, nous prenons ce qui se présente à nous, drogue, sexualité. Dieu vous demande des comptes sur notre cri gigantesque, étouffé par votre activité de profit. Un jeune, ce n'est pas rentable, ça veut toujours plus. Vous n'êtes pour rien dans ma découverte de Dieu, adulte, curé et fonctionnaire de l'Église. Il est temps de vous secouer, ou alors vous aurez à répondre de nos âmes gâchées. Les lycées sont autant de mouroirs. Mon lycée, 3500 élèves, et pas un homme, pas une femme qui écoute et console. Mais Christ nous appartient, il est mon espérance, il est jeune, il est nôtre, et il recueille nos larmes. Église, tiens compte de tes enfants. En post-scriptum, j'ai écrit un jour où les artifices ne suffisaient plus à cacher ma vermine. Là où stagne la peur, j'ai froid, et je sens mon feu s'éteindre. Oui, j'ai froid, et je sens mon cœur se recroqueviller autour de ma flamme qui finit d'exister. Martin, 17 ans. Son cri, l'aurions-nous étouffé? Sa soif, l'aurions-nous ignoré? Sa peur, l'aurions-nous décuplé? Quelques mois après sa lettre, au fond d'une grange, il s'est pendu. Dans un film que vous avez peut-être vu autrefois, Le cercle des poètes disparus, vous voyez ce professeur qui hypnotisait sa classe d'une certaine manière, hein, et qui, mais la scène globale de ce film, et d'ailleurs c'était le titre dans sa version anglaise, c'est « No future ». Il n'y a pas d'avenir. D'où un appel, je crois, pour que l'espérance renaisse, hein. L'appel, c'est vraiment de cultiver. On parle souvent de tolérance, de respect des autres, etc. Mais de le vivre en vérité dans la grâce de la famille. Je crois que ce qui seul permet de remonter le présent, hein, c'est de fonder et de soutenir la famille comme lieu d'éclosion et de croissance de la vie où chacun est égal aux autres et complémentaire, où l'on vit ce qu'est le dogme chrétien. Hein, on dit en Jésus, l'homme et Dieu sont unis sans être confondus. Ils sont distincts sans être séparés. Eh bien, dans la famille, les personnes sont unies sans être confondues, distinctes sans être séparées. Apprendre un vrai rapport à l'autre, un vrai rapport à la terre, fondé sur un vrai rapport à Dieu. Sinon, c'est le péché originel qui se répète sans cesse. Je me méfie de Dieu, du coup, c'est pas moi, c'est la femme, et la femme, du coup, c'est pas moi, c'est le serpent. Coupé de Dieu, coupé de l'autre, coupé de la création. Inventer donc une sobriété heureuse, l'écologie dit cela, mais encore faut-il qu'elle soit enracinée et orientée. J'avais lu le récit d'un dialogue entre Michel Drucker et Johnny Hallyday, hein, et les deux autour de 75 ans. Hein, et Johnny Hallyday disant à Michel Drucker que nous avons le même âge, mais vraiment on n'a pas la même bouille. Quoi, hein, Johnny Hallyday gonflé, abîmé, et Michel Drucker capable encore de présenter comme un jeune premier des émissions télévisées. Il dit mais Michel lui répond, c'est tout simple, hein, je fais de la gymnastique, je vais voir mon médecin, je mange pas n'importe quoi, je dors 7 ou 8 heures par nuit, hein, et j'ai la même femme depuis 40 ans. Quelle vie de con! Si elle n'est pas habitée par l'amour, oui, bien sûr. S'il s'agit de respecter des règles et faire attention, hein, mettre le masque, évidemment, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Si c'est la réponse permanente à un amour offert, alors c'est quelque chose qui nous invite sans cesse à faire attention. Et donc, pendant toute une vie, on reste des fiancés. Pendant toute une vie, on reste des apprentis. Pendant toute une vie, il y a quelque chose à bâtir et à espérer. Le vieux frère Jean-Gabriel, à 91 ans, à Tournai, disait je suis encore un apprenti. Ce qui était terrible, c'est que il devait tout revisiter. Il allait trouver son père abbé. Il disait, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur l'Eucharistie, sur le mystère chrétien? Il devait tout réapprendre. Nous sommes encore des fiancés. À 60 ans de mariage, je ne te connaissais pas comme ça encore. Vous voyez, c'est un rapport au temps qui est toujours ouvert. Et du coup, nous avons le jugement en perspective, voyez, mais le jugement non pas pour être terrorisé, mais pour être rempli d'espérance, au contraire. Nous savons qu'il y a, oui, l'enfer, qui consiste à s'enfermer, à refuser. Mais si nous entrons dans ce processus d'espérance, alors nous savons que nous sommes purifiés. Et même s'il faut ensuite 3000 ans de purgatoire, nous savons que l'avenir est ouvert. Et c'est ça qui est beau. Nous comprenons que cette mort qu'il s'agit de traverser, évidemment, elle peut être celle du grain de blé en terre qui va mourir, mais pour porter du fruit. Donc réactiver la mémoire, avec le courage de la foi, s'ouvrir à la promesse en retrouvant l'espérance dans ce rapport fraternel que permet à la base la famille. Si on sape la famille, on sape évidemment tout rapport social. Nous ne sommes plus que des individus devant des lois abstraites. Je crois que la famille est porteuse de l'espérance. Mais la famille, elle est en promesse permanente. Et non pas une famille établie, qui dit, regardez comme c'est beau. Non, en combat, en promesse permanente. Donc même des familles cassées, abîmées, elles sont toujours en promesse. Vous voyez, pas de modèle. Et finalement, pour conclure, la charité au présent. Charité au présent, c'est vivre le présent dans la surprise de Dieu. Sœur Elvira, quand elle avait ce projet d'ouvrir une maison pour les jeunes perdus, avait commencé à récupérer une grange et elle était avec son équipe en train de réfléchir sur ce qu'on allait faire. Et quand quelqu'un frappe à la porte, ou en ce qui en tenait lieu, un jeune perdu, elle ouvre les bras et dit « Je t'attendais ». Elle n'a pas essayé de calculer, c'est pas encore prêt, il faut que tu reviennes dans 6 mois, il faut que tu fasses un stage, il faut que, etc. Je t'attendais. Et je crois que là, vous voyez, j'ai parlé de la vocation de la famille, la vocation de l'Église. À Lourdes, la petite Marie demande à la petite Bernadette d'aller trouver les prêtres. Fais confiance toujours à ces pauvres gens que le Seigneur a appelés. Vous relirez le chapitre 22 de Saint Luc qui nous rapporte le dernier repas de Jésus. C'est là que Saint Luc a groupé ce que les autres évangélistes mettent ailleurs, la dispute des disciples en train de se demander qui est le plus grand. Et je dis, vous savez, quand on a les prêtres aujourd'hui ou les prêtres à n'importe quelle époque, Saint Pierre d'Amiens vers l'an 1000, et c'était un saint ermite très exigeant mais qui a été récupéré par le pape, qui en a fait un cardinal, enfin, il avait écrit un livre sur les abus du clergé à son époque. Il a appelé ça le livre de Gomorre. On l'a mis à l'index jusqu'en 1900. Tellement c'était cru et épouvantable ce qu'il décrivait. En l'an 1000 et en l'an 0, au temps de la scène de Jésus, vous avez un qui se prépare à renier, l'autre qui se prépare à trahir et les 10 autres qui se disputent pour savoir qui est le plus grand. Un traître, un renégat, 10 ambitieux. Alors, il ne faut pas s'étonner. Jésus, fais confiance, vous siégerez avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est fou! Donc la petite Marie envoie la petite Bernadette trouver les prêtres. Mais pour leur dire ce que le pape François ne cesse de nous répéter, il faut sortir. Allez, il faut bâtir une chapelle là-bas. Pourquoi là-bas? Enfin, je bâtir une chapelle, la grande, il n'y en a pas besoin. Un ancien recteur du sanctuaire, qui avait été aussi curé de Lourdes, nous disait, s'il y a quelque chose dont un curé a horreur, c'est bien des chapelles. Autant de gens qui font leur petite cuisine entre eux et qui échappent à sa vigilance et aux quêtes. Et donc, non. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. C'est bien cette Église-là, c'est vers elle qu'il faut se tourner. C'est elle qui a reçu le ministère, la fonction de servir cette pauvre humanité, mais à condition de se réveiller, à condition de partir, à condition d'être tout le temps en route. L'essentiel pour un chrétien, comme pour les juifs, ce n'est pas d'arriver, c'est de partir. Nous sommes un exode. Et bâtir une chapelle, un cénacle, une oasis de miséricorde. Voilà ce que doivent être nos ecclésiola, nos petites communautés, nos petits groupes, nos cellules. Des oasis de miséricorde. Je t'attendais. Entretenu par la Lectio Divina. Prendre ces paroles de l'Évangile et faire comme la Vierge Marie, symboliser, prendre les événements de nos vies et les lire à la lumière de la parole de Dieu. Nous découvrons le cœur de Dieu, l'éternité de Dieu. La Lectio Divina, la grâce du pardon. Le pardon, il ne se fatigue jamais. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Nous plonger sans cesse dans le pardon de Dieu. Et finalement, la grâce du dimanche. La grâce de la préparation de ce premier jour éternel, de ce huitième jour pour lequel nous sommes faits. Et c'est ainsi que même devant les difficultés, les noirceurs de notre monde, nous pourrons garder ce que le pape Benoît XVI méditait quand il est venu à Lourdes, en se préparant à donner l'onction des malades. Il a fait tout un petit sermon très beau sur le sourire de Marie. C'est ce sourire qu'a contemplé aussi la petite Thérèse, ce sourire qui l'a guérie. Ce sourire qu'elle était capable ensuite de donner à son tour à la sœur qu'elle supportait le moins. Nous devons être des disciples et des apôtres du sourire. Le samedi saint qui nous fait garder les larmes de la veille au soir et nous prépare à entrer dans le sourire de Dieu, dans le sourire du matin de Pâques. Amen.